France Culture, il est midi et demi. On retrouve Thomas Cluzel pour un journal raccourci aujourd'hui. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Toujours pas de condamnation requise contre le cardinal Philippe Barbarin, lequel conteste en appel sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les abus sexuels d'un prêtre du diocèse. Ce matin, le représentant du ministère public s'est de nouveau inscrit dans la continuité de la position adoptée par le parquet en première instance.
Plusieurs dépôts pétroliers sont bloqués depuis ce matin à Brest, à Lorient, au Mans et à La Rochelle.
Oui, les professionnels du BTP protestent contre la suppression de leur avantage fiscal sur le gazole non routier, un carburant utilisé notamment dans le secteur agricole et dans les travaux publics et moins cher que celui que l'on trouve en station-service.
Politique avec la fin d'un suspense qui n'en était plus vraiment un.
Ce matin, la maire socialiste de Lille, Martine Aubry, a en effet annoncé sa candidature à un quatrième mandat. Et puis à l'étranger, les talibans jugent prématuré de parler d'une reprise des pourparlers avec les États-Unis, comme l'a annoncé la veille Donald Trump lors d'une visite surprise sur une base américaine en Afghanistan. Enfin, à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Nous serions entrés dans l'ère du marché, celle des entreprises privées et des géants du numérique qui grignotent de plus en plus notre souveraineté politique. Il invite donc à repenser la place des États et celle de notre souveraineté pour répondre à la crise écologique alors que s'ouvre lundi la COP25 en Espagne. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes avec le philosophe Dominique Bourg.
Merci et à tout à l'heure. La justice ne peut pas faire du symbolique son principe d'action ni son but ultime. C'est donc avec ces mots que l'avocat général, conformément à la position déjà adoptée par le parquet en première instance, a choisi ce matin de ne pas requérir de condamnation contre le cardinal Philippe Barbarin. Je vous rappelle qu'en mars dernier, les juges du tribunal correctionnel n'avaient pas suivi les réquisitions et avaient condamné l'archevêque à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'agression sexuelle, celle d'un prêtre de son diocèse, le père Prénat. Le verdict est attendu en fin de journée. Les précisions à Lyon de Mathilde Imberti.
Le cardinal Barbarin s'est abstenu de dénoncer des faits de pédophilie. Il n'a pas pour autant fait entrave à la justice. Il n'a pas visé à empêcher quiconque de porter plainte. C'est en se fondant sur ce raisonnement que l'avocat général requiert la relaxe de l'archevêque de Lyon. Un parquet qui reste sur la ligne tenue depuis le premier classement sans suite dans cette affaire, tout en reconnaissant qu'il faut entendre le cri des victimes. La réaction de Pierre-Emmanuel Germain-Til, l'une des victimes du père Prénat, présent à l'audience.
Surpris par rapport à sa posture hier quand il écoutait toutes les personnes parler, y compris les avocats de notre côté. Après, ça rejoint ce que la déléguée du procureur avait dit au mois de janvier, donc à savoir qu'il ne réquisitionnait pas de condamnation. On va voir ce que les juges en décideront, quoi. C'est pas vraiment sous notre contrôle maintenant. Je garde espoir parce que j'ai pas porté plainte contre quelqu'un pour rien. J'ai des éléments qui attestent certaines choses, donc j'espère que la justice fera son travail convenablement. Je souhaite la même condamnation. Après, c'est la justice qui a ses barèmes. Hein, c'est pas moi de décider si le cardinal Barbarin doit avoir 1 an, 2 ans, 6 mois. Ça, c'est la justice qui décidera.
Que décidera la cour d'appel? Elle peut s'affranchir de raisonnement du parquet, comme l'avaient fait les juges en première instance, pour condamner le cardinal Barbarin à 6 mois de prison avec sursis. C'est évidemment ce qu'espèrent les victimes du père Prénat, qui, en attaquant en justice le primat des Gaules, cherchait aussi à dénoncer le silence et l'inertie de l'Église dans les affaires de pédophilie. Pour elle, le parcours judiciaire n'est pas bouclé. Elle se prépare déjà à se confronter à leur agresseur, le père Prénat, lors de son procès programmé en janvier prochain.
Ils sont venus du Finistère et des Côtes d'Armor. Au total, une cinquantaine de chefs d'entreprise du secteur du bâtiment bloquent depuis hier soir les accès de nombreux dépôts pétroliers, en particulier à Brest et Lorient, mais aussi au Mans, de même qu'à La Rochelle. L'objet de leur courroux, la suppression prévue dans le projet de loi de finances 2020 d'un avantage fiscal sur le gazole non routier dont bénéficient les entreprises du BTP. Alors rappelons qu'un mouvement similaire avait déjà eu lieu l'an dernier. À l'époque, le blocage avait duré 6 jours et la préfecture avait été contrainte de mettre en place des mesures de restriction face à la pénurie de carburant dans les stations-service. Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour.
Alors pour l'heure, ces blocages restent très localisés, pas de quoi a priori donc paniquer. Quoi qu'il en soit, ces professionnels du BTP protestent donc, je le disais, contre la fin annoncée de cette exonération de taxes. En quoi consiste-t-elle, Anne-Laure?
Eh bien, grâce à cet avantage fiscal, les professionnels du bâtiment disposent d'un carburant moins cher que le gazole classique, d'environ 55 centimes d'euros par litre. Ils utilisent ce gazole non routier pour pour leurs engins de chantier. Mais ça ne va donc pas durer puisque cette fiscalité réduite va disparaître pour leur secteur. Les agriculteurs, eux, ne sont pas concernés. Le gouvernement cherchait des recettes pour financer la baisse de 5 milliards d'euros de l'impôt sur le revenu. Et il a donc, entre autres, jeté son dévolu sur cette niche qui coûte à l'État près d'un milliard d'euros. Il avait d'ailleurs déjà tenté de le faire dans le précédent budget avant de devoir reculer en plein mouvement des gilets jaunes. Alors cette fois-ci, pour atténuer l'impact pour les professionnels, le gouvernement a décidé de supprimer cet avantage en 3 ans et puis des mesures d'accompagnement ont été annoncées. La possibilité de répercuter cette hausse sur les contrats en cours et des incitations financières pour acquérir des machines moins polluantes. Mais c'est très insuffisant pour les entreprises du BTP et notamment les TPE et les artisans. D'abord, ces engins fonctionnant avec des énergies alternatives ne sont pas ou peu disponibles sur le marché. Et puis, ce sont des surcoûts très difficiles à absorber, notamment pour de petites entreprises. Et cela peut avoir, disent-ils, des conséquences sur les effectifs. S'il répercutait les prix sur les contrats à venir, il risque en plus de voir les commandes baisser. En bloquant les dépôts de carburant, ils espèrent donc se faire entendre, alors que le budget est toujours en discussion au Parlement.
Merci Anne-Laure Jumet. On l'appelle le vendredi noir ou vendredi fou, traduction de Black Friday. Voilà 6 ans maintenant qu'en France, cette journée de promotion directement importée des États-Unis est venue officiellement marquer d'une pierre blanche l'agenda des consommateurs exaltés en quête de promotion alléchante en prévision des fêtes de fin d'année. Or, depuis quelques jours, il semble que cette fièvre acheteuse cristallise l'opposition d'une frange de plus en plus nombreuse d'activistes. C'est le cas notamment des associations de lutte pour le climat et l'environnement qui appelle à des opérations de désobéissance civile. C'est ainsi par exemple qu'à Brétigny-sur-Orge, dans l'Essonne, des militants empêchent depuis hier soir déjà des dizaines de camions de pénétrer sur l'immense centre logistique d'Amazon. Action similaire ce matin devant un entrepôt en banlieue de Lyon. Tous entendent protester contre la surconsommation, voire la méconsommation induite par cette journée. Puis précisons par ailleurs que certaines enseignes ont, elles, carrément renoncé à participer à cette journée, lui préférant un Green Friday avec des actions éco-responsable. Enfin, c'est donc en plein Black Friday, mais également à 3 jours de la COP25, une nouvelle journée de mobilisation pour le climat a été décrétée aujourd'hui dans plusieurs villes partout en France. La fin d'un vrai faux suspense à Lille ce matin. La maire socialiste Martine Aubry a annoncé dans une interview au quotidien régional La Voix du Nord sa candidature au municipal de mars prochain. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
Alors, depuis l'été dernier déjà, on savait que l'édile à la tête de la municipalité depuis 2001 était revenu sur sa décision de ne pas se représenter. C'est désormais officiel. L'ancienne première secrétaire du PS, dont on rappellera qu'elle avait fait adopter la règle de non-cumul de plus de 3 mandats successifs, briguera donc un 4e mandat. Faut-il en déduire, Rosalie, qu'elle était la seule aujourd'hui en mesure d'espérer garder la ville à gauche?
Eh bien, c'est ce que beaucoup pensent, mais officiellement, ce n'est pas pour ça qu'elle y retourne, Martine Aubry. C'est en tout cas ce qu'elle dit à nos collègues de France Bleu Nord.
Vous savez, aujourd'hui, la France va tellement mal, elle est tellement sous tension, elle est tellement divisée que c'est pas simple. C'est aussi pour ça que j'y vais. Voilà, j'y vais pas en disant la reine-mère descend et elle va être élue. Non. Dans ces périodes de complexité, il faut un peu garder le cap.
Sauf que voilà, pour garder le cap socialiste et conserver le beffroi surtout, on ne voit pas bien qui aurait pu y aller à sa place, ni même qui ira après elle, selon son concurrent Les Républicains, Marc-Philippe Daubresse.
Le sujet de Madame Aubry, c'est qu'un train peut en cacher un autre. C'est-à-dire, comme elle aura 70 ans, et c'est pas une critique dans ma bouche, qu'elle aura 70 ans l'an prochain, tout le monde sait qu'elle va pas faire la totalité du mandat. D'ailleurs, elle avait dit qu'elle se représenterait pas. Et donc, la question, c'est qui peut être maire derrière elle? Or, elle ne le dit pas.
Elle ne le dit pas parce qu'elle ne le sait pas, assure Julien Poy, le candidat de la France Insoumise à Lille.
Moi, je pense qu'elle est face à un problème. C'est qu'elle n'a pas de génération derrière pour prendre la relève, que beaucoup de gens l'ont abandonnée. Je me demande d'ailleurs comment Martine Aubry va réussir à faire campagne, avec quels militants, avec quelle organisation, sans qu'une partie des élus s'en vont et qu'une grande partie des militants disparaît.
Martine Aubry n'a-t-elle pas su, pas pu ou pas voulu faire émerger un dauphin? La question reste posée aujourd'hui, mais elle l'assure, elle a avec elle des hommes et des femmes susceptibles de prendre la relève à la fin du mandat, puisqu'elle s'engage ce matin, si elle est élue, à aller jusqu'au bout.
Merci Rosalie Lafarge. Distribution de dinde et de purée de pommes de terre, photo souvenir avec les militaires dans un gigantesque hangar décoré du drapeau américain. Officiellement, le voyage surprise hier de Donald Trump en Afghanistan, le premier d'ailleurs depuis son accession à la Maison Blanche, avait pour but de soutenir le moral des troupes américaines basées près de Kaboul à l'occasion de la fête de Thanksgiving. Sauf qu'en annonçant à cette occasion la reprise des négociations avec les talibans, la visite du président américain, lequel avait annulé les pourparlers avec les insurgés en septembre dernier, a pris un tour bien différent. Les précisions depuis Washington de notre correspondant Grégory Phillips.
Comme il l'avait fait à Noël dernier en Irak, Donald Trump surprend tout le monde avec cette visite éclair en Afghanistan. Et après avoir servi la traditionnelle dinde aux soldats, le président américain dit ceci à ses troupes réunies dans ce hangar de la base de Bagram. Il n'y a pas d'autre endroit où j'aurais voulu célébrer ce Thanksgiving. Puis Donald Trump confirme qu'il entend réduire le contingent de soldats américains actuellement déployés sur le sol afghan. Ils sont plus de 13 000 aujourd'hui à 8 600. Surtout, il dévoile que les négociations avec les talibans ont repris alors qu'il les avait brutalement interrompues le 7 septembre dernier après une année de discussions. Les talibans veulent trouver un accord, affirme Trump, et la raison pour cela, c'est que vous effectuez ici un travail formidable. On apprend un peu plus tard que les négociations entre chefs talibans et responsables américains ont repris à Doha, au Qatar, le week-end dernier. Pour la Maison-Blanche, c'est le seul moyen de trouver un accord de paix après 18 années de guerre et la mort en Afghanistan d'environ 2400 soldats américains.
Même si le geste est essentiellement symbolique, il n'en témoigne pas moins de l'insatisfaction du leader nord-coréen vis-à-vis d'une négociation avec son homologue américain qui n'en finit plus de stagner. Hier, Kim Jong-un a lancé 2 missiles à courte portée dans les eaux du Pacifique. Pyongyang a donné jusqu'à la fin de l'année aux États-Unis pour présenter une nouvelle proposition visant à créer une avancée décisive dans les négociations sur la dénucléarisation de la péninsule. Les habitants de la bande de Gaza n'iront pas manifester aujourd'hui le long de la barrière de séparation avec Israël, quelques semaines après une nouvelle escalade militaire meurtrière avec l'État hébreu, le rassemblement hebdomadaire de la marche du retour, demandant le retour donc des réfugiés palestiniens sur leur terre, a été annulé pour la troisième fois consécutive. De quoi s'interroger? Faut-il y voir la fin programmée d'un mouvement au très lourd bilan, plus de 310 morts et des milliers de blessés par balle? Je vous propose d'écouter le reportage sur place dans la bande de Gaza de l'envoyé spécial de RFI pour France Culture, Marine Vlaovic.
Pendant un an et demi, elle a été le théâtre de manifestations pacifiques et d'affrontements meurtriers. La barrière de séparation entre la bande de Gaza et Israël sera aujourd'hui désertée pour éviter de donner au gouvernement de Benjamin Netanyahou une occasion de lancer une nouvelle escalade militaire, affirme Assad Joudeh du comité en charge de la manifestation.
Nous pensons que cette situation pourra s'envenimer et nous ne voulons pas mettre les gens en danger quand nous sentons qu'il y a le moins de risques.
Mais ce risque a toujours existé. Cette mise en suspens coïncide en fait avec le dernier cessez-le-feu négocié avec l'État hébreu et pourrait annoncer une fin programmée de la marche du retour, un dénouement souhaité par Mahmoud.
Dieu merci, tout ça pourrait s'arrêter. Ils nous ont manipulés. On s'est fait tirer dessus comme des pigeons, tout ça parce qu'il manquait d'argent et que c'était un moyen de faire du profit.
Ils, ce sont les dirigeants du Hamas qui ont utilisé cette marche comme un levier de pression pour négocier l'allègement du blocus israélien et faire entrer des millions de dollars du Qatar dans l'enclave. Une balle israélienne a traversé les deux jambes de Mahmoud lors d'une manifestation. Plus d'un an après, le jeune homme peut à peine se déplacer et comprend pourquoi ce rassemblement a peu à peu été délaissé.
C'est une manifestation absurde. Ils nous envoient au casse-pipe et en tirent tous les bénéfices. Moi, je n'ai plus aucun espoir. Ils ont détruit mon avenir. J'ai 21 ans et je ne peux plus marcher.
Au moins 310 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne au cours de cette marche du retour. Plus de 7000 ont été blessés par balles. Des dizaines d'entre eux ont été amputés.
En procession funéraire ou dans de nouveaux rassemblements, des milliers d'Irakiens ont prévu de se rassembler à nouveau aujourd'hui pour réclamer le renouvellement complet de la classe politique qu'ils accusent d'être corrompue et inféodée à son parrain iranien. Hier encore, le pays a vécu l'une de ses journées les plus sanglantes en 2 mois de contestation contre le gouvernement avec 37 manifestants tués. À Hong Kong, les militants pro-démocratie ont appelé aujourd'hui à une grande manifestation dimanche ainsi qu'à une grève visant à perturber les transports publics lundi prochain. Une nouvelle mobilisation en perspective donc, et ce alors que Pékin et l'exécutif local refusent toujours toute concession aux contestataires en dépit de leur écrasante victoire aux élections locales le week-end dernier. L'antenne de France Culture reste perturbée ce vendredi encore en raison de l'appel à la grève de plusieurs organisations syndicales contre un plan d'économie qui prévoit 299 suppressions de postes. Quand la direction juge ce plan nécessaire pour construire l'avenir du groupe, les syndicats le jugent au contraire dangereux pour les salariés mais également pour la pérennité du groupe et ses missions de service public. publique. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Lumineux autour de la Méditerranée, passagèrement pluvieux partout ailleurs. Quant aux températures, elles afficheront entre 9 et 19 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Isabelle Souquet pour le prochain journal de la rédaction. Et d'ici là, dans une dizaine de minutes, vous retrouverez donc Olivia Gesbert pour la Grande Table, deuxième partie.